Depuis 2007, le PASC travaille avec les prisonniers et prisonnières politiques de Colombie. Il s'agit d'étudiantes, de paysannes, de syndicalistes, d'ouvriers, d'ouvrières, d'autochtones, d'afro-descendantes, qui, pour leurs idées, leur implication dans les mouvements sociaux ou dans la défense des droits humains, ou seulement pour s'être retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, se trouvent en prison, sans condamnation, pendant parfois plusieurs années, et pour de plus nombreuses années encore s'il y a condamnation. Mais aussi, il s'agit de combattants et combattantes, de personnes qui, pour de nombreuses raisons, décident de prendre les armes, de rejoindre la guérilla. Dans tous les cas, il s'agit de femmes et d'hommes considérés par l'État comme ennemis de celui-ci, comme rebelles ou comme terroristes, qui se trouvent enfermés avec peu de recours et sous l'exclusive vigilance du même État dont ils sont les ennemis. C'est pour cela qu'il s'agit d'un groupe vulnérable en ce qui a trait au respect de leurs droits. Comme nous avons pu le constater lors de nos visites, ils et elles subissent de nombreuses discriminations et surtout de l'isolement. Pour ces militants et militantes impliqués dans leur communauté, l'isolement social et politique de la prison est une douleur quotidienne, comme en témoigne Diomedes Meneses. Le cas de Diomedes Meneses, dans le cas est exemplaire, compte tenu de la gravité des sévices qu'il a subis lorsque l'armée colombienne l'a capturé. Il a été déclaré mort et envoyé à la morgue le 22 mai 2005. Ce jeune combattant de l'ELN a grandi auprès de la guérilla depuis ses 11 ans. À l'âge de 22 ans, il a été victime d'actes de torture, parmi les plus épouvantables ayant subi une personne encore vivante pour en témoigner. Alors qu'il se trouvait habillé de civil dans un village, les militaires l'ont mis hors combat avec un premier tir qui l'atteignit au front. Ensuite, il subit un interrogatoire sous la torture, encaissant un tir explosif qui lui détruisit le système digestif et une vertèbre, ce qui le laissa en chaise roulante depuis ce jour. Aux coups et aux insultes, s'ajoutèrent un tir de grenade à quelques mètres de lui, des coups de couteau dans les doigts, l'arrachage un à un de tous ses ongles de pied, puis l'extraction de son œil à la pointe d'un couteau par le caporal Salazar de la brigade 15 de l'armée nationale colombienne. Après lui avoir tranché la gorge, le laissant pour mort, il a passé 2 jours à la morgue et c'est sur la table d'autopsie, après l'avoir ouvert de plus de 20 cm sur le thorax, que le médecin constata qu'il était en vie. Cette histoire incroyable est celle de ce jeune homme de 25 ans, condamné à 22 ans de prison. Nous l'avons rencontré à la prison de Modelo Bucaramanga. Nous allons écouter son témoignage.
Diomedes Meneses Carvajalino, combattant de l'armée de libération nationale, ELN. Il s'agit de l'une des nombreuses histoires qui racontent la vie quotidienne de notre pays et des nombreuses tortures qui commettent l'armée au jour le jour. J'en appelle à toutes les oreilles réceptives pour qu'elles rejettent la barbarie qui se commet quotidiennement contre les êtres humains et les personnes qui soutiennent les droits à la vie et à la dignité humaine pour avoir votre appui et votre collaboration. Je vous remercierai si ces communiqués ou ces témoignages se rendent à l'ONU ou à l'accord interaméricain des droits humains pour qu'ils s'écoutent et se rendent compte quel type de président nous avons, nous les Colombiens, et à quel type de président ils serrent la main lorsqu'ils vont faire des traités internationaux sur le droit à la vie. Lui, lorsqu'il arrive dans notre pays, il fait le contraire. Pour que nous réalisions de quel type de monstre il s'agit, il donne des sortes sanguinaires. Et avec tous les accords multimillionnaires qu'il fait pour les pays, pour que ça nous bénéficie avec de l'emploi, tout cet argent reste dans 3 ou 4 poches de fonctionnaires de l'État pendant que notre pays est plein de misère, de pauvreté par la faute de ces terroristes. Ils nous appellent des terroristes, mais les vrais terroristes, ce sont eux. Eux qui tuent des innocents, les légalisant, ils les font passer pour des subversifs ou des délinquants, pour faire voir des bons résultats. Je tiens à témoigner qu'ils en tirent des bénéfices. Je veux aussi clarifier que les présidents que nous avons et tous les présidents n'occupent ces postes que pour les propres bénéfices. Ils n'ont donné aucun résultat pour les pays. Ils n'ont fait qu'amener la misère, la pauvreté et la destruction. Parce que pendant qu'ils parlent de paix, ils amènent la guerre dans les pays.
y destrucción, porque ellos mientras están hablando de paz,
Il veut que détruire la Colombie. C'est là des 4 ou 5 pays avec les plus de richesses au monde. Mais tout ce qu'on a, c'est la pauvreté et de la misère. C'est pour cela qu'il y a tant de gangs de délinquance et tant de conflits. Il n'y a pas d'emploi. Lui, il parle de paix, mais comment peut-il avoir la paix lorsque c'est la misère, la pauvreté, la faim? Et chaque mère doit aller dans la rue chercher comme souvenir au besoin de leurs enfants pour ne pas les laisser mourir de faim. Après cela, le refuge, l'espoir ou la seule solution qu'ils leur proposent, ce sont ces lieux où nous nous trouvons. Là où nous qui défendons nos droits et la seule option que nous donne le président, c'est la prison. Légaliser, tuer quelqu'un, c'est ce qu'ils font pour avoir des résultats. Ils prennent 5 ou 6 paysans d'une population qui n'ont rien à voir avec les conflits. Ils les remettent en uniforme, en camouflage. Ils les tuent, les remettent un pistolet dans la main et les font tirer avec sa main pour que la peau reste dans la main du mort. Ils les légalisent et disent que les paysans leur ont tiré dessus et ils sont donc légalisés. M'as-tu compris? La vie dans la prison, c'est une routine quotidienne. On voit autour de nous que quatre murs et les mêmes visages tous les jours. C'est la routine de tous les jours, de tous les internes. C'est aussi une discrimination de part de l'égard à tout instant. Si quelqu'un revendique les droits que nous avons d'après les codes pénitentiaires, d'un coup, il lui tombe dessus et c'est les coups de bâton et les gaz lacrymogènes.
En
tant que prisonnier politique, mes idéaux et mes instincts restent vivants parce que chaque jour, nous devons apprendre et nous préparer. Parce que la lutte continue. La lutte ne s'arrête pas dans une prison. La lutte ne s'arrête pas dans une chaire roulante comme dans la situation où je me trouve moi-même. Je dis souvent que je ne suis pas né ici et que je ne vais pas rester ici. Qu'un jour, je vais en sortir et la lutte continue. Tu vois, toujours aussi vivant. Même si je ne pourrai plus jamais apporter les qualités que j'y apporterai avant, mais j'y apporterai encore quel que soit le lieu où je me trouve, parce que ça, on l'a dans les seins. De plus, mon enfance, je l'ai vécu dans l'organisation et mes jouets étaient les armes. Comme prisonnière politique, j'ai subi beaucoup de répression en prison pour le simple fait d'être prisonnière politique. La nourriture, il nous l'amène toujours mauvaise et la visite, pour ceux qui en ont, il la renvoie. Comme prisonnière politique, nous n'avons pas le droit d'avoir des remises de pain pour le travail de la cuisine, comme les prisonniers politiques. Comme prisonnière politique, nous ne pouvons pas avoir des remises de pain et travailler dans une entreprise appelée Fantasia, un job d'arranger des linges et tout ça. Nous n'avons pas ces privilèges comme les hommes paramilitaires. La seule remise de pain à laquelle nous avons accès, c'est celle de l'étude. Et c'est la seule. Ça fait partie de la répression à notre égard, et pas seulement dans cette prison, sinon dans toutes les prisons du pays. Ces prisons sont du gouvernement, et le gouvernement, il nous impose.
Une
chose qu'il veut, c'est nous rendre la vie impossible au maximum. Je tiens aussi à clarifier, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles je me trouve, après avoir été fait prisonnier, ma soeur est venue me visiter un jour et n'a pas pu revenir parce que je suis prisonnier politique. Mais c'est moi le prisonnier politique, pas ma soeur ni ma famille. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais à cause des menaces, cela fait des années que je passe ici sans que personne de la famille me visite par crainte de ce qui pourrait leur arriver avec les dénonciations que j'ai faites sur mon cas. Et imaginez-vous, de la seule réponse que j'ai reçue à ma dénonciation, c'est une lourde condamnation et une chaire roulante. Ils m'ont même pas demandé des preuves pour la plainte que j'ai formulée.
Voy a completar 6 años preso.
J'étais capturé le 25 mai 2002. Ça fait 6 ans que je suis prisonnier et j'ignore combien d'années je vais passer encore ici. Imaginez-vous, regardez comme la justice colombienne est hypocrite. J'ai demandé la prison à la maison, la prison à domicile, et ils disent que je ne suis pas apte à cela parce que mes mains et ma tête sont encore en état. Comme si j'étais un monstre, comme ils le sont. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir d'ici. Ce que je sais, c'est qu'un jour, je vais devoir sortir. Je voudrais clarifier des petites choses au sujet du camarade qui se trouvait lors des faits avec moi. Il était mon commandant, le commandant Auris. Ils l'ont tué, en fait, ils nous ont tués. Car ce jour-là, ils nous ont tués tous les deux. On était là les deux et ils nous ont tués tous les deux grâce à Dieu. J'ignore comme j'ai ressuscité et un miracle, je sais pas. Et je suis revenu à la vie une fois à la morgue. À lui, ils lui ont tiré 30 balles. Je pense que c'est une mail. Je crois qu'avec les trois premières, avec celle-là, il était déjà mort. Mais après, ils ont continué à tirer encore et encore jusqu'à éteindre les 30 tirs qui ont traversé son corps. Je vais aussi faire savoir que l'homme de la mort qui m'a pratiquement sauvé la vie, au bout d'une semaine, ils l'ont fait disparaître. Au début, ils disaient que c'était les forces armées spéciales, et après, ils ont conclu que c'était les paramilitaires. Les commandants Auris, ils l'ont tué. Moi, je l'ai su que 3 mois plus tard. Et lui de la mort qui a appelé les droits humains, ils l'ont tué, disparu une semaine plus tard. Et l'autre de la mort a disparu. Il doit être vivant, mais on ne sait pas où il se trouve, où il a dû aller, on ne sait rien.
Ils ont
tué et tué plein de gens. Moi, j'ai survécu grâce à Dieu. J'ai survécu à la torture, mais je suis un cas unique de torture. Car l'armée m'a enregistré comme mort, m'a amené dans les sacs de polyéthylène de jusqu'à la brigade 5 parce que j'étais mort. J'ai donc un acte de décès et on m'a enregistré comme décédé et j'étais donc mort. Lorsqu'on fait cet acte, c'est parce que quelqu'un est mort. Tous les corps, tous les coupes de pieds, les coupes de crosse qui m'ont donné m'ont produit quelque chose qu'on appelle catalepsie. Et le corps est comme mort, mais on est encore vivant. Même si on n'a pas l'air de respirer ni avoir des signes vitaux. Mais c'est quand ils m'ont ouvert à l'autopsie que mon corps était encore chaud et bougé. C'est la barbarie du gouvernement envers tous les gens qui mènent à cela. C'est pour cela qu'en ce moment, il y a des groupes dirigeants, beaucoup de vols. C'est là pourquoi? Parce que les gens ne vont pas permettre que les familles meurent de faim ou que leurs enfants meurent. Parce qu'il n'y a pas de travail et il n'y a pas d'emploi. Alors ce qui leur reste, c'est de sortir et voler par-ci, par-là à celui qui a des choses. Sinon, quoi d'autre? Alors ensuite, ils les arrêtent et les font payer de la prison. C'est ça que le gouvernement a des prêts pour notre futur. Seulement la prison, seulement des morts, seulement des sangs. Ça, c'est toute la beauté des monstres que nous avons comme président, nous les Colombiens. Quand il va dans les autres pays, il dit des bonnes choses. Mais la vérité, la vraie vérité, elle est ici dans les rues de toutes les villes des Colombiens, où l'on voit la misère, où on voit vraiment la pauvreté.
La verdad está aquí, en las calles de todas las ciudades de Colombia, donde se ve la miseria.
C'est pour ça que beaucoup se retrouvent à voler, deviennent délinquantes. Et d'autres, nous prenons les armes pour revendiquer nos droits.
Otros tomamos las armas para reclamar nuestros derechos que nos pertenecen, para reclamar también los derechos de los demás que todavía están ciegos, que no entienden la lucha o que no entienden esto, la situación del país que los tiene
que nos appartient et aussi pour revendiquer les droits des autres, ceux qui sont encore aveugles et qui ne comprennent pas la lutte ou qui comprennent pas la situation du pays, ceux qui sont aveuglés. Le gouvernement doit fournir l'éducation gratuite à tous les Colombiens, il doit fournir la santé. Mais ici, dans notre pays, il y a des enfants au port des hôpitaux qui, s'ils n'ont pas de ressources, pas un sou pour être soignés, ils meurent là. C'est pour tout cela que nous revendiquons des droits et que nous soulevons et que nous prenons les armes.
Pero entonces hay mucha gente todavía que está cegada, ¿por qué? Porque por lo uno, porque no tiene educación y porque al gobierno no les conviene que se eduquen y el día de mañana se les revele más gente todavía de la que se le ha revelado, ¿eh? Yo solamente les pido la
il y a aussi beaucoup de gens encore aveugles. Tout d'abord parce qu'ils n'ont pas d'éducation et au gouvernement ça ne lui convient pas qu'ils s'éduquent, parce que s'ils faisaient demain matin, il y aurait plus de gens qui se révéleraient, plus que ceux qui se sont déjà révélés. Je vous demande de m'appuyer dans mon cas pour que toute cette barbarie, tous ces services qui sont faits contre moi et contre beaucoup d'autres qui ont fait disparaître ou qui n'ont pas dénoncé, ne reste pas ainsi impuni. Parce que ça continue et continue encore et encore tous les jours. Parce que si personne ne dénonce, les choses ne changeront jamais et ils vont empirer. Moi, je vais continuer jusqu'au bout, même si je dois passer par-dessus que je devrais passer. Parce que moi, je le vis dans mon corps et dans ma chair. Je dis cela parce que je porte en ce moment les séquelles et la douleur. En ce moment où je vous parle, avec une douleur, j'ai deux douleurs. Une dans les jambes que je ne supporte plus et une autre ici, dans la poitrine. De voir tant d'injustices dans notre pays, tant d'enfants qui meurent de faim et tant de gens qui meurent. Et de voir que c'est un pays si riche en pétrole, en or, tout ça provoque la rage, l'indignation. Et c'est pour ça que je demande à toutes oreilles réceptives de rejeter, de répudier réellement toutes les barbaries qui sont commises contre nous.
Digo porque todavía tengo secuelas de eso y el dolor que incluso en este momento ya le estoy hablando con un dolor. Tengo dos dolores, uno en las piernas que no me la aguanto y un dolor acá en el pecho de ver tanta injusticia en nuestro país, tantos niños muriéndose de hambre, tanta gente por ahí limoneando y de ver que es un país tan rico en petróleo, en oro, en todo lo que en este entonces sí, eso causa rabia, causa indignación y por eso digo que a todo aquel oído receptivo que repudie verdaderamente a todas las barbaries de todo lo que han hecho con nosotros.
Nous allons maintenant écouter le témoignage d'un avocat du comité de solidarité avec les prisonniers et prisonnières politiques, comité avec lequel travaille le PASC, projet accompagnement Solidarité Colombie, depuis plusieurs mois maintenant. Pour de plus amples informations, vous pouvez aller sur le site web du PASC, www.pasc.ca.
Leonardo James Maria, avocat défenseur de prisonniers politiques et membre du comité de solidarité avec les prisonniers politiques de la section de Bucaramanga. Les prisonniers politiques sont les personnes qui se trouvent dans les prisons colombiennes à cause de leur position politique, pour leur travail de confrontation des politiques de l'État et qui, pour différentes raisons, ont été faites prisonniers et prisonnières et se trouvent en ce moment dans les prisons de Colombie. Une chose, c'est être prisonnier politique, comme en Colombie. En ce moment, il y a environ 7000 personnes qui, dans leur majorité, sont des gens qui ont été accusés ou condamnés pour le délit de rébellion. Il faut clarifier qu'il ne s'agit pas seulement du délit de rébellion, parce qu'en ce moment, en Colombie, il y a des gens qui sont accusés pour d'autres délits, comme terrorisme, complot, méfaits, homicides, etc. Alors bien que ces personnes-là soient pas accusées de rébellion comme telle, elles sont considérées comme prisonnières politiques ou prisonniers politiques à partir du moment où les motifs de leur arrestation est politique. Le délit de rébellion, techniquement, dans la Constitution colombienne et dans l'histoire du droit pénal colombien, il s'agit de toutes les personnes qui, par l'utilisation des armes, s'opposent au régime constitutionnel ou légal en vigueur. Donc il s'agit d'un délit qui correspond à une peine de 6 à 10 ans de prison. Il est important de mentionner que ce délit a été modifié dans son utilisation pratique dans les dernières années.
Últimamente ha sido modificado en la práctica porque al que captura, es decir, aquellas personas.
Parce qu'en ce moment, les personnes qui font partie des organisations guerrières, qu'il s'agit des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC-EP ou de l'armée de libération nationale, ELN, ne sont pas judiciarisées pour rébellion, mais bien pour terrorisme ou d'autres charges plus lourdes que rébellion.
Ou pour délitos mayores. La rébellion.
Le délit de rébellion en Colombie est utilisé seulement ou exclusivement pour les dirigeants populaires, comme par exemple des membres de l'Union syndicale ouvrière dans le cas des ouvriers, pour des étudiants ou des dirigeants paysans ou d'humbles paysans, comme dans le cas de José Eduardo Uribe Ochoa, qui est un paysan de la vallée du fleuve Cimitarra du Magdalena Medio, qui a été judiciarisé pour rébellion.
Y por esa razón está siendo juzgado por rebelión. Entonces, mira cómo es la lógica.
Alors ici, on voit une logique. Aux pauvres, aux ouvriers, aux humbles, on les juge pour rébellion. Et les rebelles, qui cadrent réellement dans le délit de rébellion, on les juge pour terrorisme, ce qui vaut 12, 15, jusqu'à 40 ans de prison. En ce moment, une personne accusée de faire partie d'une organisation guerrière peut être condamnée jusqu'à 60 ans de prison.
Une organisation guerrière peut être condamnée jusqu'à 60 ans de prison. El delito de terrorismo es muy interesante.
Le délit de terrorisme, c'est assez intéressant parce que ça suit la constante au niveau mondial. Si vous me demandez, Leonardo, qu'est-ce que ça veut dire le terrorisme? Je vous répondrai rien. Ou bien c'est tout, ou bien c'est rien. La façon dont c'est décrit dans le code pénal colombien, c'est la même chose que la définition au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de définition de qu'est-ce que c'est que le terrorisme. En Colombie, on définit toute personne qui met en danger la communauté. Mettre en danger, c'est un terme très ambigu, très général et abstrait. Il ne s'agit pas là d'une définition de type pénal. Donc le terrorisme en Colombie n'est pas réellement défini. En 1992, des travailleurs de Télécom ont été jugés pour terrorisme parce qu'ils étaient sortis protester contre la privatisation de Télécom, des télécommunications. Ces travailleurs furent jugés pour terrorisme. Et il y a peu de temps, il y a un cas d'un travailleur du secteur pétrolier de l'Union syndicale ouvrière, USO, qui a lui aussi été jugé pour terrorisme.
De un trabajador del sindicato de los petróleos de la USO que estaba siendo juzgado por terrorismo. Entonces, es muy difícil saber qué es.
Alors, il est assez difficile de savoir qu'est-ce que c'est que le terrorisme à l'heure de la vérité. Ce qui est sûr, c'est que les peines de prison sont très élevées. On parle d'un minimum de 20 ans. Donc, une personne accusée, jugée et condamnée pour terrorisme écope au minimum de 20 ans. Il est très difficile d'exercer le droit conçu comme au service des communautés, au service des gens ou défendre des rebelles. Parce qu'attention, en Colombie, il existe des rebelles. Il existe des rebelles parce qu'il existe des conditions objectives de misère, de pauvreté et d'exclusion qui ont entraîné une partie de la population à en venir aux armes.
Pauvreté et exclusion qui a originé que un secteur de la population accude à l'uso de las armas.
Défendre des gens qui ont été capturés par l'État, c'est assez difficile. Il existe une mauvaise coutume en Colombie de confondre l'avocat et son client, dans la mesure où les organismes de sécurité de l'État considèrent que tous les avocats qui défendent des rebelles sont eux-mêmes des rebelles.
Que tous les avocats qui défendent rebelles est parce que también son rebelles.
Ici, il y a des cas d'avocats disparus, comme le cas de Alinho Jesus Pedraça, disparu depuis de nombreuses années, depuis presque 1988, mais je peux me tromper. Il était membre du comité de solidarité avec les prisonniers politiques. Il y a aussi des avocats qui ont été assassinés pour avoir défendu des prisonniers politiques, comme Eduardo Mania Mendoza, comme le docteur Barriga et de nombreux autres avocats qui ont été assassinés par l'État de Colombie ou par le terrorisme d'État. Il n'existe pas les conditions nécessaires pour assurer la défense de prisonniers politiques, ni pour défendre les travailleurs, les paysans et les étudiants. En fait, il y a des avocats qui le font, mais ils courent des risques, ils se font menacer, ils sont en danger. Si vous allez dans les ONG à Bogota, on se rend compte que les avocats de collectifs très fameux de la défense des droits humains se retrouvent obligés de se promener en voiture blindée avec des escortes. C'est absurde. Comment avoir un contact avec les communautés dans ces conditions? Mais l'État colombien nous oblige à exercer ainsi. Bon, dans mon cas, je continue d'exercer ici, dans ma région. J'ai pas eu à me plier à ça, mais on peut pas écarter la possibilité que tôt ou tard, je doive moi aussi avoir recours à ce modèle. On espère que non. Ici, il y a un concept éminemment dangereux qui a fait école. On applique le droit pénal d'ennemi. C'est un type de pratique qui est très courante aux États-Unis et je crois qu'aussi au Canada. On considère que toute personne qui est en dehors du système en est l'ennemi. Alors toute personne considérée comme hors du système, considérée comme ennemi, on lui applique un droit pénal d'une façon spéciale en considérant cette personne dangereuse a priori. C'est-à-dire que c'est un droit pénal qui juge la personne, qui ne juge pas les actes. Alors en Colombie, on considère tous ceux qui vivent dans une zone d'influence de la guérilla et tous ceux qui ne sont pas d'accord ou questionnent les politiques économiques d'un quelconque gouvernement, on les considère comme des guérilleros. Puis les guérilleros qui, pour de vrai, prennent les armes, eux sont considérés comme terroristes. C'est ça, la réalité colombienne.
Es considerado terrorista. Esa es la realidad colombiana.